Amen. Vous pouvez prendre place, frères et sœurs. Nous voulons ouvrir la parole du Seigneur dans l'Épître aux Romains aujourd'hui, au chapitre 1er, pour commencer. Mais on va commencer par une petite anecdote. C'est l'histoire du pasteur de cette église qui avait remarqué que l'un des membres de son assemblée, jusque-là très fidèle, présent à tous les cultes, avait cessé de venir à l'église. Alors, n'en sachant pas la raison, il a décidé de lui rendre visite. Et ce soir-là, il faisait froid. Lorsque le pasteur entra dans la maison, là, il a trouvé donc le frère en question assis devant un feu qui flambait haut et fort dans la cheminée. Voilà. Et le frère a invité le pasteur à s'asseoir dans l'autre fauteuil qui était près du feu. Et puis il a attendu en silence le début du sermon. Parce qu'il s'est dit, je vais avoir droit à un sermon certainement. Hein. Et pourtant, le silence s'établit dans la pièce. Et le pasteur contemplait les flammes qui dansaient là, dans la cheminée, autour des bûches embrasées. Et au bout d'un long moment, il s'est penché pour attraper les pinces qui étaient accrochées à côté du tisonnier. Et puis il a retiré avec les pinces une braise, un morceau de braise incandescente qu'il a déposé dans un coin de l'âtre, loin des flammes, avant de se renfoncer dans son fauteuil. Voilà, et puis aucun mot n'a été prononcé entre les deux hommes, et puis les yeux de tous les deux étaient rivés sur la braise qui était en train de s'éteindre peu à peu, et au bout de quelques minutes, évidemment, ce n'était plus qu'un bout de bois noir et froid, et les deux hommes restaient silencieux, immobiles, sans pouvoir détacher leur regard de la cheminée. Et puis le pasteur a jeté un coup d'œil sur sa montre, et puis il a décidé qu'il était l'heure de partir. Alors, il s'est levé lentement de son fauteuil, il a repris le morceau de braise qui était éteinte avec les pinces, et il l'a replacé au milieu du feu, qui flambait toujours dans l'âtre, bien sûr, et la braise s'est enflammée en quelques secondes au contact des bûches incandescentes, et il s'est dirigé ensuite vers la porte. Et son hôte l'a accompagné jusque sur le seuil, puis avec des larmes glissant doucement sur ses joues, il a murmuré « Merci pour votre visite, qui m'a fait beaucoup de bien, et merci surtout pour votre sermon enflammé. » Voilà, je serai là dimanche prochain à l'église. Voilà, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour parler un petit peu de communion fraternelle. Hein, donc, dans l'Épître aux Romains, nous avons ce premier texte, qui nous parle des sept occasions, dans les épîtres de l'apôtre Paul, sept occasions où vous trouvez le mot « ensemble ». Le mot « ensemble » associé à diverses choses. Hein. Donc, l'apôtre Paul était probablement celui qui était le plus convaincu parmi tous les apôtres de l'importance de l'assemblée. Enfin, je ne sais pas s'il y a moyen de faire une comparaison, mais en tout cas, c'est sûr que c'est lui qui a eu la doctrine de l'Église. Et c'est par son moyen que nous avons aujourd'hui la doctrine de l'Église. Hein. Et c'est ce que nous pouvons discerner dans la lecture de ces épîtres. Et qu'est-ce que c'est qu'une Église ? Sinon le rassemblement, une Église selon Dieu en tout cas, sinon le rassemblement sur cette terre de tous ceux qui sont destinés au salut. C'est l'apôtre Paul qui nous parle le plus fréquemment de compagnons d'œuvre, de compagnons de service, de compagnons de combat. Et il n'a pas seulement parlé de cela, il l'a mis en œuvre, il l'a mis en pratique. Et donc, cette fois, dans ses épîtres, nous trouvons ce mot « ensemble » associé à d'importantes vérités. Il est bon que nous puissions méditer, nous aussi, ensemble à ce sujet. Notre premier texte, donc, Romains chapitre 1er, je lis au verset 11. « Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. » Ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Que nous soyons encouragés ensemble. Voilà. Alors comment est-ce qu'on est encouragé ? Eh bien, d'après ce texte, nous voyons déjà, on est encouragé par la communication de quelques dons spirituels. Nous souvenons que l'Épître aux Corinthiens nous rappelle que les nombreux dons et précieux dons spirituels qui sont accordés par le Seigneur sont accordés en premier pour l'édification du corps de Christ, en premier pour le bénéfice de tous les frères et sœurs de l'Assemblée, en premier de pour ceux qui sont ensemble. C'est pour cela qu'ils sont donnés. Donc voilà déjà un encouragement ensemble. Et puis on est encouragé aussi, nous est-il dit là, par la foi qui nous est commune. Alors la foi en qui ? La foi en Dieu, bien sûr. La foi au Seigneur Jésus-Christ, à son œuvre. La foi en la parole de Dieu, c'est cette foi-là, avec tous ses développements, qui est commune à tous les véritables croyants. Et la foi, nous le savons, a pour objet différentes choses encourageantes. Hein, la foi du salut n'est-elle pas encourageante ? Hein, la foi de la bénédiction. Nous croyons que le Seigneur veut bénir les siens. La foi de la délivrance. La foi de la guérison. Hein, la foi de l'exaucement à la prière. La foi qu'il y a un ciel de gloire qui est réservé pour les fidèles. La foi du secours divin dans toutes les occasions où nous avons ce besoin, alléluia, et bien d'autres aspects encore de cette foi. Et cette foi, bien sûr, il faut que nous l'ayons personnellement, il faut que nous l'ayons individuellement, que nous en fassions chacune et chacun l'expérience, mais il faut aussi que nous l'ayons ensemble. Hein, faut que nous l'ayons ensemble, et parce que nous pourrons ainsi nous exhorter, nous encourager mutuellement par le témoignage, la prédication, l'entraide, le soutien mutuel, le travail en commun, les échanges, la pratique d'expérience de foi, et ce sera véritablement là encore un grand et précieux soutien. Amen. Vous savez, les paroles d'encouragement, ça peut être vraiment des paroles vivifiantes pour nous, de procurer une nouvelle motivation. C'est Mark Twain qui n'était pas chrétien, mais qui a dit qu'il pouvait vivre tout un mois sur un bon compliment. Il pouvait vivre tout un mois d'un bon compliment. Alors l'encouragement chrétien, bon, c'est plus qu'un compliment, c'est plus qu'une tape dans le dos, hein, donc aussi valable que ces choses puissent être. Et c'est un écrivain qui a décrit cet encouragement donc comme le genre d'expression qui aide quelqu'un à vouloir être un meilleur chrétien, même quand la vie est difficile. Hein. Quand il était jeune, Larry Crabb, donc un serviteur de Dieu, bégayait, et puis il a été humilié une fois en une occasion en prenant la parole donc devant un groupe d'étudiants. Alors déjà ça, et puis alors le dimanche d'après. En priant à haute voix lors d'une réunion de l'église, là encore, son problème de bégaiement l'a amené à mélanger ses mots et sa théologie. Alors il s'attendait vraiment à être repris sévèrement, il avait honte, et il a décidé de quitter l'église discrètement, déterminé à ne plus jamais prendre la parole en public. Voilà. Et puis il raconte que lorsqu'il a voulu sortir, il y avait un homme plus âgé, un chrétien plus âgé, qui l'a arrêté pour lui dire « Larry, il y a une chose que je veux que vous sachiez. Quoi que vous fassiez pour le Seigneur, je suis derrière vous à 1000%. » Il lui a dit ça, et la détermination de Larry à ne plus jamais parler en public s'est aussitôt envolée. Et puis, bien voilà, aujourd'hui, bien des années après, mais il s'adresse à de grandes foules avec assurance. Voyez-vous, une parole, un soutien, une parole d'encouragement. Hein, béni soit le Seigneur. Et nous pouvons ainsi discerner que pour ceux qui savent vraiment être ensemble dans le cadre de l'œuvre de Dieu, il y a des encouragements bien réels, des encouragements admirables. Amen. Ensuite, dans l'Épître aux Romains toujours, mais cette fois-ci à la fin, au chapitre 15 de cet Épître, Romains chapitre 15, nous lisons au verset 5 déjà. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. L'ensemble qui glorifie Dieu. Vous avez pu voir que dans le verset 6 et le verset 7, la préoccupation de l'apôtre tournait autour du fait de glorifier Dieu. Hein, c'est donc comment une assemblée peut-elle véritablement glorifier Dieu ? Comment des croyants peuvent-ils le faire ? Alors, vous avez dans ce passage sept choses, sept points à ce sujet. Hein. Déjà en premier, en persévérant ensemble. début du verset 5. Malgré les difficultés, les défauts qu'il ne manquera pas d'y avoir un moment ou un autre. Hein. C'est l'histoire de cet homme, ce chrétien, qui se plaignait un jour à un autre frère des membres de l'Église. Et puis comme il le faisait d'une manière un peu persévérante, malheureusement, l'autre, qui était son ami, lui a dit « Mais écoute, arrête un peu là. Est-ce que tu es parfait, toi? Tu as des défauts aussi, non ?» Alors, je crois bien, personne n'est parfait. Alors l'autre était obligé de répondre. Et puis le frère lui a dit, disons que tu as 3 défauts. Hein. Alors il y a 500 membres dans notre église. Donc, belle église déjà, hein, supposons que chacun d'eux a aussi 3 défauts. Donc ça nous fait 1500 défauts dans l'église. Est-ce que tu penses que notre église sera meilleure si tout le monde est exactement comme toi ? Alors, l'autre a été obligé de dire, écoute, je me rends compte que j'ai un esprit trop critique. Et tout ça pour dire quoi ? Pour dire que la persévérance dans le Seigneur, avec nos frères et sœurs, mais c'est quelque chose qui va nous aider à nous améliorer ensemble, hein, nous faire améliorer ensemble, et de cette manière, nous allons pouvoir évidemment glorifier Dieu par notre comportement. Ensuite, en deuxième, nous pouvons glorifier Dieu aussi par le moyen de la consolation divine. C'est aussi dans ce début de verset 5. Hein. Et combien de fois ? Combien de fois, moi-même, et je suis persuadé, chacun d'entre nous qui suivons le Seigneur, avons pu être consolés dans le cadre de l'Assemblée. Hein, combien de fois c'est arrivé ? Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour rien qu'il est appelé le Paraclète, c'est-à-dire le Consolateur. Il est le Consolateur. Hein, et ceux qui, dans l'Assemblée, sont remplis du Saint-Esprit, eh bien, seront eux-mêmes aussi des Consolateurs, capables de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Et puis nous pouvons le glorifier aussi en ayant les mêmes sentiments les uns envers les autres, comme il est dit dans la suite de ce verset 5. C'est-à-dire évidemment de bons sentiments, de dons de soi aux autres, étant toujours prêts à leur donner plus que ce que nous pourrions attendre d'eux en retour. Hein, donc étant prêts, par exemple, toujours à les supporter plus avec amour, qu'eux-mêmes peut-être nous supportent. Il faut agir ainsi, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce sont des règles pour qu'on puisse demeurer ensemble et qu'on puisse construire quelque chose, qu'on puisse édifier l'œuvre de Dieu. Et puis vous savez, parce que par nature, tels que nous sommes, nous voyons toujours beaucoup plus facilement ce que nous faisons pour les autres que ce que les autres font pour nous. Par nature aussi, nous voyons beaucoup plus facilement les défauts des autres que les nôtres. Donc il vaut mieux que nous fassions plus d'efforts que ceux que nous attendions de la part des autres. Hein. Et puis, c'est le moyen d'être béni de Dieu aussi, évidemment, bien sûr, puisqu'il y a des promesses du Seigneur qui s'accomplissent, puisqu'il est écrit que si nous donnons, il nous sera donné. Et que le Seigneur versera dans notre sein une bonne mesure, bien serrée, bien secouée, et qui déborde. Amen. Et ceci est particulièrement vrai aussi pour le pardon. Je vais vous lire une petite poésie qui a pour titre « Pardonne ». Oh, pardonne à celui qui tombe, ne le reprends pas rudement, n'est-ce point assez qu'il succombe sous le poids de l'égarement ? Sais-tu bien ce que fut sa lutte, ses désirs ardents, laissais-tu ? Et l'instant fatal de sa chute, à quoi peut-être il a tenu ? Sois doux envers celui qui tombe, et dis-toi bien, dis-toi souvent, que s'il faiblit et s'il succombe, il est ton frère cependant. Héritier d'un même héritage, du même père il est l'enfant. Il est tombé dans un passage où tu marchas en chancelant. Oh, pardonne à celui qui tombe, pour lui va fléchir le genou. Son fardeau l'oppresse, il succombe, ne lui jette pas ton caillou. Déjà la paix a fui son âme, l'innocence a fui son chemin. Épargne-lui ton cruel blâme et sache lui tendre la main. Sois doux envers celui qui tombe, grâce peut-être à ton amour, l'enfant égaré qui succombe prendra le chemin du retour. En regardant à ta misère, à ton cœur au mal obstiné, tu pardonneras à ton frère ainsi que Dieu t'a pardonné. Amen. Voilà, c'est vrai. Et nous pouvons glorifier Dieu ensemble, ayant ces mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit dans la suite de ce verset 5, notre quatrième point. Et comment est-ce qu'on peut avoir les mêmes sentiments qui était en Jésus-Christ. Quels sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ? Je ne vais pas lire le passage, mais dans Philippiens chapitre 2, verset 6, il nous est rappelé que le Seigneur était égal avec Dieu, supérieur à tout et à tous et à toutes choses et en tout, mais il n'a pas regardé cela comme un dû, nous est-il dit. Il n'a pas considéré cela comme une proie à arracher. Il ne s'est pas battu pour cela. Au contraire, nous voyons qu'il s'est dépouillé lui-même, nous est-il dit dans ce verset. Mieux encore, il a pris une forme de serviteur, mieux encore, il s'est humilié lui-même, vous savez jusqu'où, jusqu'à la croix, hein, donc il s'est humilié jusqu'au bout, et c'est vrai que lorsqu'on commence à mettre cela en pratique, eh bien c'est vraiment quelque chose qui va être un grand moyen de bénédiction dans nos relations les uns avec les autres et dans l'assemblée. Amen. Et puis nous pouvons glorifier Dieu aussi par notre bouche, une bouche qui est unanime, donc ça c'est dans le verset 6, hein, donc ça veut dire quoi ? Par la louange, l'adoration ensemble, par les prières que nous adressons au Seigneur ensemble, par les paroles positives qu'on prononce sans se plaindre des autres, mais en mettant en évidence les bontés, les preuves de bons soins de la part du Seigneur, et par la reconnaissance envers le Seigneur, hein, par le témoignage à sa gloire. Et c'est vrai que quand dans l'Église, lorsqu'il est ainsi de façon générale, nous voyons que le Seigneur est glorifié. Et là, vous trouvez, j'aime pas tellement le mot atmosphère de foi, mais quand même, il y a aussi une réalité derrière cela. Hein. Donc, une atmosphère favorable à la bénédiction. Et le Seigneur aussi pourra agir avec une liberté considérable. Amen. Et puis en sixième, nous pouvons glorifier le Seigneur en accueillant les autres, est-il dit dans le début du verset 7. C'est-à-dire déjà en leur prêtant attention, en allant vers eux, en usant d'égard en ce qui les concerne, chacune et chacun, en s'intéressant à eux. Hein, de ceux qui pourraient être considérés comme les plus petits, des croyants jusqu'aux plus grands, sachant la valeur que chacune de ces âmes peut avoir. Hein, donc ça aussi c'est quelque chose d'important, quelque chose de nécessaire. Hein. On raconte, n'attendez pas trop pour soutenir, hein, pour soutenir et encourager quelqu'un. Raconte ces lignes émouvantes qui ont été écrites malheureusement trop tard pour une épouse américaine à son mari, ça date déjà de d'un moment déjà, voilà ce qu'elle a écrit. Je me souviens avoir emprunté ta voiture toute neuve et l'avoir emboutie quelques kilomètres plus loin. Je pensais que tu allais t'emporter contre moi et de me traiter de tout, mais tu ne l'as pas fait. Je me souviens du jour où nous sommes allés sur la plage alors que tu me l'avais déconseillé, la pluie selon toi étant imminente. Il s'est mis à pleuvoir et en revenant, je m'attendais à ce que tu te moques de moi en déclarant « Ne t'avais-je pas dit qu'il pleuvrait aujourd'hui ?» Mais tu ne l'as pas fait. Et cette fois où j'ai renversé du jus de fruits sur ton costume blanc, je savais que tu allais être terriblement vexé, que tu m'en tiendrais rancœur, mais tu ne l'as pas fait. Et cette autre fois où nous devions sortir à une soirée très officielle, et je t'avais dit par erreur que la soirée était censée être décontractée, tu avais mis une paire de jeans, tu t'es senti mal à l'aise dès le début de la soirée. J'étais sûr que tu allais partir et me rendre responsable de ce fiasco, mais tu ne l'as pas fait. Je voulais te dire que je t'aimais, et que j'appréciais tant le tact, la patience et la douceur dont tu as toujours fait preuve à mon égard, le jour où tu reviendrais du Vietnam. Mais tu n'es jamais revenu. Tu n'es jamais revenu. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour encourager. Il y a un temps pour soutenir. Hein, et ce temps, il est limité. Et puis lorsqu'il est passé, eh bien, il ne reste rien. C'est pour ça qu'il ne faut pas, je dirais quelque part, gaspiller son navire et regretter son passé et ressasser des paroles qu'on aurait dû prononcer, et puis qui auraient tant encouragé quelqu'un. Donc voilà, vous savez, des paroles agréables sont comme le miel, nous dit le Proverbe chapitre 16. Elles sont douces pour le corps et font du bien au cœur. Amen. Amen. Donc voyez là aussi encore, nous pouvons glorifier Dieu ensemble et puis nous avançons encore, nous pouvons glorifier le Seigneur aussi, d'autant plus glorifier Dieu que nous les accueillerons comme Christ nous a accueillis et comme Christ les a accueillis et nous a accueillis, est-il dit enfin dans le verset 7, la fin de ce verset 7. Souvenons-nous de la façon dont Christ nous a accueillis, je dirais nous a recueillis même, hein. Quel amour, quel pardon, quelle bonté, quelle patience, quel support, quelle grâce, et que nous puissions donc être ses imitateurs en ce qui concerne l'accueil, et que le Seigneur soit ainsi glorifié. Amen. Et puis nous avançons un petit peu et nous voyons que dans 1 Corinthiens 7, au verset 5 maintenant, nous trouvons un autre ensemble, le troisième, c'est celui, l'ensemble dans ce qu'on pourrait appeler la cellule de base de l'Assemblée. On pourrait même dire, sans aucun problème, la cellule de base de la société. Hein. Mais voilà, nous lisons donc 1 Corinthiens 7 à partir du verset 1er. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme, toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Voilà, nous lisons ce passage qui nous parle, avons-nous dit, de la cellule qui est à la base de toute société, du moins de toute société qui veut tenir debout, de toute société qui veut fonctionner, et évidemment à la base aussi de l'Église, donc, c'est la famille. Et nous voyons bien que la manière dont la famille est attaquée aujourd'hui nous montre combien notre société est actuellement en phase de décadence et d'autodestruction. Et nous voyons bien que la famille est un objectif stratégique de l'ennemi. Mais en tout cas, c'est dans l'assemblée de ceux qui aiment le Seigneur qu'il doit en être différemment. Je vais vous lire un petit texte de Tertullien. Tertullien, donc, c'est la fin du deuxième siècle, pardon, et le début du troisième siècle. Et voilà donc ce qu'il écrit à propos du mariage chrétien. Où trouver des paroles pour exprimer toute l'excellence et la félicité d'un mariage chrétien ? Quel joug aisé que celui de deux croyants participant à la même espérance. Ils sont vraiment compagnons de service. Un quant à la chair, un quant à l'esprit. Ensemble ils prient, ensemble ils jeûnent, ensemble ils s'instruisent, s'exhortent, se soutiennent. Ensemble encore, on les trouve dans l'église de Dieu. On les voit s'asseoir à la table du Seigneur. Ils ne se cachent rien, ils ne s'évitent pas, ils ne s'importunent pas l'un l'autre. Volontiers, ils visitent le pauvre, soutiennent l'indigent, ils font l'aumône sans crainte de mutuels reproches. Dans l'intimité, ils chantent des psaumes, luttant à qui chantera le mieux les louanges du Seigneur. Christ le voit, l'entend, se réjouit et leur envoie sa paix. Où une pareille union entre deux existe, le Christ vient habiter. Où il habite, le malin n'est pas. Voilà. Ah, donc ça c'est Tertullien, qui a écrit de 155 à 222 après Jésus-Christ, donc vous voyez bien, et il vaudrait encore la peine de dire bien des choses au sujet du mariage selon Dieu, mais nous retenons notre grand thème d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont ensemble, ils demeurent ensemble le plus continuellement possible, c'est leur moyen d'action, c'est leur moyen d'être en bénédiction pour d'autres, et c'est aussi leur moyen de sauvegarde, hein, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence, nous est-il dit là, donc dans un monde de plus en plus mauvais, de plus en plus rempli de tentations de toutes sortes, un texte comme celui-là doit être expressément obéi. Est-il normal, par exemple, que la femme prenne l'habitude de cacher des choses à son mari ? Ou bien est-il normal que le mari prenne l'habitude de s'en aller, sans dire à son épouse où il va et pour combien de temps ? Est-il normal que certains en arrivent en quelque sorte à faire une partie de leur vie, chacun de son côté ? Certainement pas. Quand on est chrétien, certainement pas, et il faut y veiller. Hein. Que dans le Seigneur, eh bien, mari et femme soient ensemble, qu'ils parlent ensemble, qu'ils agissent de concert, et quand ils le peuvent ensemble, qu'ils se lient l'un à l'autre pour que leurs qualités respectives puissent s'enrichir mutuellement et qu'ils puissent recevoir les bénédictions que le Seigneur met, que le Seigneur veut mettre sur une telle union. Amen. Hein. Je voudrais vous lire encore un autre petit témoignage, je vous lis plusieurs choses aujourd'hui, mais je ne sais pas si vous avez jamais entendu le nom de Robertson McKilkin. Donc, c'est un conférencier, théologien américain, donc un auteur respecté de plusieurs livres, un ancien missionnaire au Japon, et en 1968, il devint directeur de l'Université biblique internationale de Columbia. Il avait été là étudiant. Et pendant ses années d'études, il y avait rencontré Muriel, qui devint sa femme et qui le soutint dans son travail, l'épaula dans son travail de missionnaire et plus tard d'enseignant de la Bible. Elle aussi, elle anima aussi un programme de radio, elle devint elle-même une conférencière respectée, voilà. Mais voilà que dans les années 80, son mari remarqua que sa femme semblait oublier ce qu'elle venait de dire. Comme ça, elle oubliait ce qu'elle venait de raconter. Et après bien des tests, le diagnostic tomba. Muriel commençait à souffrir de la maladie d'Alzheimer. Voilà. Alors sa situation empira au cours des années qui suivirent jusqu'au jour où le docteur McKilkin annonça au conseil de l'université qu'il avait décidé de démissionner de son poste de directeur pour s'occuper à temps complet de sa femme. Et des milliers de personnes à ce moment-là ont écouté via Internet le discours qu'il a prononcé devant les étudiants de Columbia, donc, où il expliquait qu'il tenait à honorer l'engagement qu'il avait pris 40 ans, plus de 40 ans plus tôt, de rester uni avec sa femme jusqu'à ce que la mort les sépare. Et bientôt, sa femme a cessé de le reconnaître, mais il s'est occupé d'elle jusqu'à son dernier jour, donc elle est rejoindre le Seigneur en 2003. Et alors, quand on lui posait la question, il disait, mais vous savez, ce n'est pas un sacrifice que j'accomplis, mais un simple acte d'amour. Après tout, elle m'a aimé et s'est dévouée pour moi pendant plus de 40 ans. Même si je la soigne pendant 40 ans, je n'aurais pas acquitté ma dette envers elle. Voilà. Et donc, il a écrit ça dans une lettre qui a été publiée depuis. Et l'expérience qu'il a vécue l'a amené, explique-t-il, à mieux comprendre l'extraordinaire amour de Dieu à notre égard. Et son histoire a inspiré un très grand nombre de serviteurs de Dieu, servants du Seigneur, de chrétiens à travers les États-Unis, au point que certains pensent que Robertson McKilkin a touché davantage de personnes avec son histoire qu'à travers tous les livres qu'il a pu écrire et toutes les conférences qu'il a données dans le passé. Il a eu, il doit avoir, je ne sais pas exactement où il en est, mais en tout cas, je sais que quand il avait 90 ans, il continuait à servir le Seigneur encore, donc c'était il n'y a pas longtemps, une paire d'années. Dieu aime les hommes et les femmes qui savent tenir leurs promesses. Amen. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose à rappeler et à tenir aussi. Éphésiens 2, chapitre 2, pardon, verset, début du verset 6. Éphésiens chapitre 2, notre quatrième ensemble, et ça, je dirais, c'est l'ensemble de la résurrection. Éphésiens chapitre 2, on y arrive. L'ensemble de la résurrection, surtout le début de ce verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Et puis après, vous allez dire le suivant. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Là aussi, de quoi cela nous parle-t-il? Quelle est cette résurrection dont il est parlé là? Cette résurrection dont il est parlé là, eh bien, c'est la nouvelle naissance. C'est la marche en nouveauté de vie. C'est ça la grande chose, le grand point. Vous étiez morts, est-il dit, dans vos offenses et dans vos péchés, mais Dieu vous a rendu la vie avec Christ. C'est la résurrection de l'esprit. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, est-il dit dans le troisième chapitre de l'évangile de Jean. Et c'est cette résurrection qui nous fait marcher en nouveauté de vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est aussi cette résurrection qui fait que nous sommes délivrés des passions mauvaises, des mauvaises réactions, et que nous pouvons maintenant porter du fruit pour Dieu. Donc ça aussi, c'est quelque chose de précieux. On raconte, vous savez, il y a quand même aussi, lorsqu'on vient au Seigneur, ça veut dire la vie nouvelle qui vient en nous, et puis vous avez l'ancienne vie qui doit mourir. Et ça aussi, c'est important. Et celui qui perd sa vie pour moi la trouvera, dit le Seigneur. Raconte l'histoire de ce novice qui un jour a demandé, il y a bien longtemps, à un moine, donc dans du temps des pères de l'Église, ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Et alors le moine lui a dit, va au cimetière, insulte les morts et reviens demain. Bon, ce que fit le jeune homme, et quand le moine lui demanda, mais comment les morts ont-ils réagi à tes insultes? Alors il répondit, ils n'ont pas réagi. Bon, maintenant, va au cimetière, louange les morts et reviens demain. Donc, le novice y alla, louange les morts, les compara aux apôtres, à tous les saints du ciel, voilà. Et puis quand il revient auprès du moine, celui-ci lui demande, alors comment les morts ont-ils réagi à tes louanges? Eh bien, il répondit, n'ont pas réagi. Alors le moine lui a dit, voilà, c'est quand une œuvre de Dieu se sera faite en toi pour que tu ne réagisses ni aux compliments, ni aux insultes, c'est à ce moment-là que l'œuvre du Saint-Esprit aura accompli tout ce qui était nécessaire. Et la rédemption, c'est cela, hein, malgré tout. Hein. C'est-à-dire que le vieil homme est crucifié avec Christ et le nouvel homme revit en Christ. Et c'est vrai que c'est pour cela que nous sommes invités à prendre chaque jour notre croix, comme le dit le Seigneur, comme le dit l'apôtre Paul, de manière à ce que nous puissions devenir conformes au Seigneur dans sa mort et que sa vie puisse aussi être ainsi manifestée en nous. Amen. Voilà qui est nécessaire et voilà qui est hautement salutaire et bénéfique. Et nous voici donc délivrés, bien sûr, aussi, comme il est marqué dans Galates 5, verset 19, de l'impudicité, de l'impureté, de la dissolution, de la magie, de l'idolâtrie, des inimitiés, des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes, des sectes, de l'envie, de l'ivrognerie, des excès de table et des choses semblables. Donc, là encore, par le secours du Seigneur, et ainsi nous avons la victoire sur ces choses. Et nous voici rendus capables de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Comme il est dit dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23, et par cette vie nouvelle qui est en nous, eh bien, ces excellents fruits vont pouvoir être développés. Et ça aussi, c'est quelque chose de primordial. Si nous sommes disciples du Seigneur, nous sommes quand même censés imiter ce comportement, n'est-il pas vrai, hein ? Et Jésus dit, prenez mon joug sur vous et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Doux et humble, c'est dans Matthieu 11, verset 29. Même si le Seigneur était intransigeant vis-à-vis des hypocrites, par exemple, on le sait, il faisait cependant preuve d'une grande douceur et d'une grande patience envers tous. Et on doit suivre son exemple. On raconte qu'un jour, le général Washington se promenait en compagnie du marquis de Lafayette, qui était encore jeune à ce moment-là. Ils ont rencontré sur leur chemin un vieil esclave noir. Et arrivé à leur hauteur, l'esclave a salué le général Washington, George Washington, d'un « Bonjour, général Washington », tout en inclinant son large chapeau dans sa direction. Alors, Washington a répondu en enlevant aussi son chapeau, et puis en inclinant, baissant la tête, « Bonjour, mon ami, et j'espère que vous passerez une bonne journée ». Il a répondu comme ça. Le marquis de Lafayette a été profondément surpris par ce comportement. Il lui a dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes incliné ainsi devant un esclave ? Et donc, il dit ça. Alors Washington a répondu, mais écoutez, je ne tiens certes pas à me montrer moins poli que lui. Il s'est vrai comporté en vrai gentleman, moi aussi. Voilà. Hein, et donc, vous savez, je ne sais pas si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se targuent d'être des gentlemen. Gentlemen, ça vient dans le mot gentleman, vous savez, gentle. Gentle, ça veut dire doux, ça veut dire humble de cœur, ou aimable si vous préférez. Hein. Donc voilà, et donc c'est pas une qualité naturelle ça, c'est plutôt un fruit de l'esprit, on le voit, et le Seigneur est celui qui peut vraiment nous aider à manifester cette bonté, et apprendre à écouter les autres, à être aimable avec chacun, se comporter comme un serviteur du Seigneur, une servante du Seigneur, et un imitateur de Christ. Amen, amen. Et puis, il nous faut cependant être bien conscient qu'une telle œuvre, celle dont on vient de parler, c'est quelque chose qui ne s'accomplit pas dans la solitude. Cette œuvre de résurrection ne s'accomplit pas dans la solitude. Hein. Donc, c'est le fait de se lier étroitement les uns aux autres qui est aussi primordial. Il nous a ressuscités ensemble, est-il dit. Lorsque nous sommes dans cette disposition, nous avons un puissant soutien, là aussi, pour, dans cette communion fraternelle, cette vie de résurrection liée à cette communion fraternelle, eh bien c'est ce qui nous aidera aussi à obtenir encore bien des progrès, bien des victoires, bien des accomplissements du plan de Dieu et l'approbation de notre Seigneur sur nos âmes et sur nos vies. Et puis nous voyons bien que cette résurrection spirituelle, ce n'est que le prélude de la résurrection du corps que nous attendons aussi avec tant d'espérance. Amen. D'ailleurs, un peu à peine dans le même verset, vous l'avez vu, on l'a lu, la deuxième partie, il nous a fait asseoir ensemble aussi dans les lieux célestes en Christ. Vous avez deux ensemble là dans le même verset. Et ça aussi, c'est une expérience admirable, au-delà de toute mesure. Et Dieu veut nous la faire réaliser. C'est une expérience de foi. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ par la foi. Hein? C'est le cas déjà lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous marchons en nouveauté de vie. Eh bien, le Seigneur nous donne un accès céleste à nos prières. Déjà, on voit cela. Mais pas seulement à nos prières. Aussi à notre esprit qui est ainsi par la foi introduit dans la présence de Dieu, qui y a une place, et remarquez bien, une place assise dans la communion donc avec le Seigneur Jésus. Et c'est ça qui nous fait considérer les choses de ce monde d'une perspective supérieure. Hein? C'est ça qui nous fait voir les choses de ce monde d'en haut. Nous ramène les choses à leur juste mesure. Voyez-vous, les choses matérielles, les combats qu'on a ici-bas, les dangers, les menaces, les soucis, hein, les causes de soucis, les difficultés, les hommes de ce monde, les grands, les petits. Lorsque nous regardons tout cela depuis le point de vue du Seigneur, depuis le point de vue de Dieu, de sa grandeur, de sa puissance et de son amour, oui, c'est vrai, c'est ça qui nous aide à avoir la victoire de la foi. Amen. Hein, donc, c'est de cette manière que nous n'avons plus de raison de craindre. Et c'est ainsi que nous pouvons aussi régner dans la vie par Jésus-Christ seul. C'est ainsi que nous pouvons triompher en Christ. Amen. Alors, il s'agit bien sûr d'une position spirituelle, d'une position de foi dans laquelle peuvent et doivent entrer tous ceux qui sont nés de nouveau. Et là encore, c'est ce repos de la foi qui est réservé au peuple de Dieu et dans lequel nous devons nous efforcer d'entrer. Vous avez ce beau petit chant, « Assis avec Christ ». Dans les lieux célestes, regardons en bas l'ennemi vaincu. Assis avec Christ dans les lieux célestes, nous ne craignons rien devant l'ange déchu, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a délivrés de l'oppresseur, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a délivrés, il est Seigneur. Amen. Vous voyez, le message est dans ce chant. Hein? Mais voici l'élément sur lequel insiste notre passage, malgré tout, revenons-y, c'est qu'une telle œuvre ne peut vraiment s'accomplir que dans une communion fraternelle vraie. Hein? C'est aussi, il nous a fait asseoir, on ne peut pas être assis tout seul dans les lieux célestes. L'Écriture nous dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père Céleste. Il y a beaucoup de places sur le trône du Seigneur dans l'Apocalypse où il fait asseoir ses élus. C'est évident. Hein? Et après tout, le fait d'être assis spirituellement et par la foi dans les lieux célestes en Jésus-Christ n'est que l'annonce, n'est que le prélude du moment où nous y serons assis physiquement dans notre corps de gloire transformé. Amen. Hein? Et oui, c'est ensemble que nous sommes assis dans cette merveilleuse position de communion, de victoire et de foi. Et combien il faut que nous puissions donc soutenir et approfondir cette communion fraternelle si bénie et en bénédiction. Amen. Et puis vous avez aussi en sixième maintenant, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, vous avez l'ensemble de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4, verset 17. Et là, nous lisons. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, nous attendons l'enlèvement. Nous attendons l'enlèvement des croyants, hein. C'est la chose que nous attendons en tant que ce moment merveilleux, lorsqu'il va se réaliser pour nous, en un instant, en un clin d'œil, nous allons être changés, nous allons être mais transformés, glorifiés, nous allons enfin pouvoir discerner la lumière de Dieu, la gloire du Seigneur, les choses spirituelles dans toute leur splendeur. Enfin, nos étroites limites terrestres vont être quelque part déchirées et nous allons être transformés, nous allons être ressuscités, pleins d'une force et d'une vie inimaginable, à l'image de ce qui se passe lorsque la chenille devient papillon, vous savez, hein, quelle transformation extraordinaire. Eh bien, le contraste sera encore beaucoup plus grand entre notre position actuelle et la situation que nous aurons alors. Hein. Et nous pourrons dire vraiment alors d'une façon nouvelle, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Alléluia. et nous allons avoir des sens nouveaux, nous allons avoir des perceptions nouvelles qui vont nous faire discerner avec une sensibilité que nous ne connaissons pas jusqu'à présent, des goûts, des couleurs, des bruits, des musiques, des impressions, des influences, des choses qu'on ne peut même pas nommer parce qu'il n'y a pas de mots humains sur cette terre pour les décrire, qu'on n'imagine même pas. L'homme ici-bas ne sait même pas que ces choses existent et elles sont pourtant d'une telle gloire devant Dieu. Alléluia. Hein. Nous allons enfin connaître comme nous allons vous être connus et surtout, nous allons être près de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et les mots manquent. Les mots manquent, c'est vrai, pour parler de cette œuvre divine. Mais le vrai croyant attend avec un ardent désir, comme toute la nature et encore plus qu'elle, la révélation des fils de Dieu. Amen. Mais quelles sont les conditions de l'enlèvement qui sont décrites là? Celles qui sont données dans notre texte. Vous avez quatre conditions qui sont données dans ce texte. Déjà, il est question d'être vivant. Nous, les vivants. Hein. Vivant, c'est-à-dire, bien sûr, d'avoir la vie du Seigneur en nous. Hein, suivant ce que nous avons pu développer un petit peu déjà auparavant, d'être né de nouveau, de marcher avec Dieu en rejetant les œuvres de la chair et en portant du fruit pour le Seigneur. Ensuite, il est question d'être aussi de ceux qui sont restés. Nous, les vivants, qui serons restés. Ah, voilà. Rester quoi? Rester comment? Ben déjà, rester fidèle. Rester fidèle dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la foi, dans le zèle pour Dieu et pour son œuvre, au milieu d'une génération, malheureusement, trop souvent perverse, corrompue, au milieu de ceux qui se disent croyants et qui, hélas, trop souvent deviennent tièdes. Et vous savez ce que le Seigneur dit à propos des tièdes, hein. Il dit, parce que tu es tiède, tu seras vomi de ma bouche. Hein. Donc c'est pour ça, il faut faire attention, il faut rester comme Abraham et rester à côté de Sodome et Gomorre, rappelez-vous, hein, dans sa position comme Enoch, et rester aussi à marcher avec Dieu. Hein, pourquoi? Eh bien, parce que justement, il voulait s'attacher à ce Seigneur, et vraiment, nous savons comment il a été glorieusement enlevé par lui, ce qui est une préfiguration pour nous. Comme Noé aussi, au milieu des injustes de son temps, il est resté, comme Jérémie, qui est resté comme un signal de fidélité dans un peuple corrompu sur lequel le jugement allait tomber. Et c'est vrai que ceux qui resteront ainsi, c'est ceux-là qui seront enlevés. Amen. Et puis, il est question aussi de ceux qui ont en eux cette profonde aspiration à être toujours avec le Seigneur. C'est ce qu'on voit dans la fin de ce verset 17 et le verset 18, cette soif de communion. Hein, ce bonheur qui ne se trouve que lorsque notre âme est étroitement unie à lui. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. Ça, c'est l'aspiration de notre cœur. Amen. C'est ça qu'on a besoin. Et puis enfin, il est question d'être profondément unis aux fidèles, à l'assemblée des vivants. Ben oui, c'est marqué. Attachés aux frères et sœurs, à ceux qui, par l'amour qu'ils ont pour Christ, sont véritablement notre famille la plus proche. Ben oui. Et puis la plus durable. Ben oui, parce que quand on quitte cette terre, on quitte notre famille terrestre. Mais si on a la famille spirituelle, on ne la quittera pas. Alléluia. Hein, béni soit le Seigneur. Souvenons-nous donc qu'une des conditions incontournables de l'enlèvement, eh bien, c'est d'être ainsi lié de ce puissant lien d'amour avec ceux avec lequel le Seigneur nous a mis ensemble. Amen. Et enfin, l'ensemble de la communion avec Jésus. Et là, nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et au verset 10, mais on peut déjà commencer à lire depuis le verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Amen. Hein, donc voilà. Vivre avec Jésus. Notre objectif, notre bonheur, c'est être toujours en communion avec lui. C'est notre idéal, c'est notre désir le plus cher. Un jour, il y a un frère qui m'a posé la question, ouais, pas qu'une fois, mais c'est « Est-ce qu'il est possible sur cette terre d'en arriver à une vie où on ne pêche plus, où on ne pêche absolument plus ?» Hein ? Alors voilà. Alors c'est vrai que la réponse, c'est qu'à nous, évidemment, cela est impossible, parce que nous avons beau essayer de nous améliorer inlassablement, nous n'y parviendrons pas, parce que notre propre mauvaise nature sera toujours pour nous l'occasion de chute. Mais notre texte nous indique cependant le secret. Et ce secret, c'est de nous soumettre pleinement au Seigneur et au message de l'Écriture. C'est de nous confier entièrement en lui, de nous confier en sa parole bénie. D'être toujours avec lui par la parole, par la prière, de demeurer toujours dans sa communion par son esprit. Hein, et ne pas vouloir faire aucune chose, petite ou grande, en dehors de sa communion. Et chercher continuellement sa présence, sa face, sa volonté, et l'aimer ainsi de tout notre cœur, lui qui nous a tant aimés. Quand on est là, c'est Augustin qui disait « Aime Dieu et fais ce que tu veux ». Parce qu'à partir de ce moment-là, si on est dans cette position, eh bien, tout ce qu'on voudra, mais ce sera la gloire de Dieu. Hein, c'est vrai. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Soit que nous veillons, soit que nous dormions, être avec lui toujours, c'est cela le vrai bonheur et c'est cela la véritable vie. Mais encore une fois, ça ne se fait pas tout seul dans son coin, hein, même s'il y a bien sûr notre part, évidente, primordiale. Le mot « ensemble » est là pour nous rappeler, encore une fois, le cadre de la communion fraternelle vraie et profonde, dans lequel cette œuvre pourra aussi se développer et se faire. Et plus notre communion avec Jésus grandira, et plus elle nous fera aimer nos frères et sœurs en vérité et dans les actes, suivant le commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Et c'est pour ça qu'au verset suivant, verset 11, il est parlé d'exhortation, d'édification mutuelle. Et là aussi, c'est encore bien sûr le désir et la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'on devient possesseur de ce plein salut dont il est question au verset 9. Amen. Amen. Alors en conclusion, bien rappelons ces bénédictions, ces nécessités de la vraie et étroite communion, d'être vraiment ensemble d'après l'apôtre Paul. Donc, pour l'encouragement, premier passage, Romains 1, verset 12. Ensuite, pour vraiment glorifier le Seigneur, Romains 1, verset 15. Pour que la famille glorifie Dieu, ensuite, 1 Corinthiens 7. Ensuite, pour mener une vie de résurrection, Éphésiens 2. Et puis pour être assis dans le lieu céleste aussi au verset chapitre 2 au verset 6. Et puis pour être enlevé, 1 Thessaloniciens 4 verset 17. Et pour être toujours en étroite communion avec Jésus, 1 Thessaloniciens 5 verset 10. Que le Seigneur bénisse sa parole pour nos âmes à chacun. Amen. Amen. Merci Seigneur, c'est toi qui inscris encore et grave littéralement encore ces choses dans nos cœurs et dans nos âmes, Seigneur, combien nous avons besoin, combien nous avons le bénéfice dans cette communion fraternelle, Seigneur, cet attachement aux frères et sœurs en toi. Et nous te bénissons encore de ce que ce matin tu nous donnes cette occasion, ce privilège, et tu nous aides aussi encore à véritablement les mettre en œuvre le mieux possible dans toutes les situations où tu nous places, dans toutes les circonstances. Merci notre Dieu, sois loué, sois glorifié pour ton action, pour ton amour puissant. Merci pour l'œuvre que tu as faite et celle que tu poursuis encore dans ce sens. Béni sois-tu Jésus, alléluia, pour le développement de cet amour pour toi, pour cet amour mutuel aussi, Seigneur. Merci notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te rendons gloire. Sois béni, Seigneur. Amen, Jésus, alléluia. Amen, alléluia. Béni soit le Seigneur. Alors, nous avons plusieurs annonces. Je vous rappelle la réunion de prière qui se tient toujours le mercredi à 16h. Il n'y a pas besoin de s'inscrire pour y participer. La prédication en ligne sur le site de l'église vendredi à 20h15. Donc, samedi prochain, nous envisageons l'évangélisation dans les villages des alentours. Rendez-vous ici à 14h30, c'est de la boîte aux lettres. Donc, ce qui me permet de vous dire que nous avons un nouveau traité qui vient d'arriver, un nouveau traité d'assemblée qui vient d'arriver. Donc, c'est toujours un petit peu le même concept, c'est-à-dire que vous avez plusieurs petites anecdotes autour d'un thème. Donc le nouveau thème, c'est la paix, et ces anecdotes mènent à annoncer l'évangile donc par ce moyen. Et puis vous avez toujours aussi sur ce même traité une proposition de Bible gratuite avec les coordonnées de l'église, l'adresse, le téléphone, le site, les réunions. Nous envisageons une distribution systématique sur Chalon et les environs pendant ces prochains mois. Et on fera appel à tous les volontaires lorsqu'on aura pu mettre ça un peu au point. Et je vous rappelle aussi que même si nous venions à être confinés, ce qui n'est pas impossible dans les prochains temps, malgré tout, les églises restent ouvertes. Hein, donc les réunions et les cultes se poursuivent avec, bien sûr, toutes les précautions requises. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à son beau nom. Alléluia.